Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ce soir dans Wagon Livre sur Radion, votre radio locale. L'émission littéraire de Radion rend hommage aux hommes qui furent mobilisés durant l'enfer de cette grande guerre meurtrière qui fit plus de 10 millions de morts. Notre invité ce soir, Michel Mauny, qui a fait paraître en 2005 la correspondance de ses grands-parents paternels, tous deux instituteurs bourguignons dans l'Yonne, près de Sens, et qui vécurent le cataclysme de 14-18. Michel Mauny, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous d'avoir répondu favorablement à cette invitation pour Radion. Alors, vous êtes un petit-fils de Poilu et je vais vous demander de vous présenter un peu aux auditeurs de Radion, Michel Mauny.
Oui, eh bien, effectivement, j'ai coutume de dire que je ne suis ni universitaire, ni historien. Je suis simplement un petit-fils de Poilu et chercheur amateur pour le plaisir.
Alors, plaisir qui a donné naissance à un ensemble de lettres, c'est la correspondance qu'échangeaient vos grands-parents, votre grand-mère Léa, votre grand-père Émile, mobilisés sur le front. Vous avez retrouvé de manière incroyable cette correspondance dans un grenier.
Voilà, les circonstances ont fait que ma maman a dû quitter son appartement et en vidant son grenier, j'ai découvert tout à fait par hasard quelques cartons très poussiéreux dont l'un d'entre eux a retenu mon attention. Il était couvert simplement d'une petite étiquette bien calligraphiée portant un seul mot, guerre.
Et alors vous ouvrez ce carton,
voilà.
Vous le découvrez en juillet 2002.
C'est ça.
Et là, combien de lettres avez-vous recensées, Michel Mauny?
Eh bien, le premier carton, je l'évaluais à peu près à 200 lettres, et puis je n'avais pas remarqué qu'il existait un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième carton. Au total, 1235 correspondances diverses.
Avec des cartes postales aussi?
Bien sûr, y compris des cartes postales.
Alors, sur quelle période s'étale cette correspondance?
C'est un des intérêts, justement, de ce corpus, c'est qu'il couvre absolument la totalité du conflit, puisque les premiers courriers qui ont été disponibles, datent de la déclaration de guerre, donc début août 14, et les derniers vont même au-delà de la démobilisation de mon grand-père Émile en février 19.
Par conséquent, il faut bien dire que votre grand-père, Émile Mauny, est le rédacteur principal, puisque bien sûr les lettres d'Émile ont été conservées précieusement par votre grand-mère, Léa. Il est clair que les lettres que Léa a envoyées à votre grand-père n'ont pas toutes
sont moins nombreuses. Sur les 1200 et quelques que je citais tout à l'heure, 800 sont d'Émile. Et le restant serait parti en lettres de Léa, bien sûr, mais pas sur la totalité du conflit, puisque à partir du moment où Émile a été dans des conditions les plus dangereuses au front, il détruisait les lettres de peur qu'elles tombent dans des mains non désirées. Mais néanmoins, la présence des lettres de Léa est intéressante parce que ça donne une vision de la perception de la guerre vue de l'arrière.
Et par une femme,
bien sûr.
Courageuse, enfin, on y reviendra.
Et puis, au-delà de ces deux rédacteurs, Émile et de Léa, il y a bien sûr d'autres plumes qui se manifestent. Celle de leur fils, le petit garçon, le petit Roger, qui est mon père, qui écrit évidemment avec la naïveté d'un enfant de 10 ans. Il y a également des courriers de collègues, des courriers d'élèves. Enfin, sous des plumes aussi diverses, on a vraiment des visions très très variées du même phénomène.
Alors, il faut préciser aux auditeurs de Radion que vous aviez 3 ans lorsque est mort votre grand-père, Émile Mauny. Vous avez beaucoup plus connu
Léa.
Votre grand-mère paternelle, Léa Mauny.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est elle que j'ai connue surtout. Moi, j'ai un très vague souvenir d'Émile, mais Léa, je m'en souviens bien sûr très bien. Mais curieusement, le contact que j'ai eu avec Léa ne m'a rien apporté, aucune information sur la guerre.
Et petit garçon, vous ne pensez pas
voilà.
forcément à
Tout
lui
à
demander
fait.
Comment elle avait
Exactement.
Vécu ce
Exactement, ce n'était pas le sujet de préoccupation d'un enfant de l'âge que j'avais à l'époque.
Michel Mauny, face à cet ensemble de lettres qu'il faut lire, qu'il faut essayer de déchiffrer aussi, j'imagine, avec prudence, parce que le papier était peut-être devenu fragile.
Exactement.
Quand germe dans votre esprit l'idée de publier, en tant qu'historien amateur, comment vient l'idée de rassembler cette correspondance, avec le risque de présenter au public, à des lecteurs, une correspondance privée?
Tout à fait. Eh bien voilà, ça c'est. Alors j'ai tout à fait de quoi répondre à cette question-là qui est bien intéressante. C'est qu'au départ, je n'envisageais pas du tout d'écrire un livre. Ma première intention était de faire un petit résumé des traits les plus caractéristiques à usage strictement familial, en direction de mes fils en particulier, qui sont très respectueux de l'héritage de nos anciens. Et puis les circonstances ont fait que j'ai eu le bonheur, l'occasion de rencontrer des historiens de métier, des universitaires, en particulier je peux citer Michel Cordillo, qui est le président d'Adiamos 89.
Et qui préface votre livre.
Qui préface mon livre, voilà. Et avec d'autres amis, ces gens-là qui étaient des historiens de métier, m'ont conseillé en me disant « ton projet familial est respectable, mais tu as la chance de disposer d'un matériau, d'un véritable objet d'histoire qui mérite une audience beaucoup plus large que celle simplement limitée à la famille. » Et c'est dans ces conditions-là que je me suis lancé dans cette petite aventure.
Et ça a débouché sur ce livre, oui. « Émile et Léa », sous-titré « Lettres d'un couple d'instituteurs bourguignons dans la tourmente de la Grande Guerre », livre auto-édité. L'exemplaire que j'ai entre les mains est la troisième édition. Mmh. Vous me dites plus de 1500 exemplaires.
1500 exemplaires, oui.
Et il vous en reste une petite centaine.
Oui, voilà.
Michel Mauny, on va marquer une première pause et puis nous reviendrons dans quelques minutes sur les portraits d'abord de votre grand-mère, Léa, née Poncet, et votre grand-père, Émile Mauny, sur Radion.
Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour Lourou, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon. Comme son vin, son œil pétille, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire, une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton. Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Un caporal en képi de fantaisie s'en fut trouvé Madelon un beau matin, et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon, pas bête en somme, lui répondit en souriant. Et pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout un régiment? Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main. J'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton. Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton. Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon.
La suite de notre émission littéraire sur Radion avec Michel Mauny pour son livre « Émile et Léa, lettres d'un couple d'instituteurs bourguignons dans la tourmente de la Grande Guerre ». Michel Mauny, parlez-nous et présentez-nous un peu votre grand-mère qui est née en 1873 à Bussy-en-Othe et qui était institutrice.
Tout à fait. Eh bien, ma grand-mère, Léa, en fait, pour l'état civil, c'est Denise Léa. Mais c'était assez fréquemment le cas, on n'employait pas toujours le premier prénom. On l'appellera toujours Léa. Et Léa était une enfant d'un couple d'instituteurs, d'un couple de cultivateurs, mais très modeste, une toute petite exploitation, très limitée. Et ses parents étaient conscients du fait que l'activité agricole qu'ils menaient n'était pas suffisamment lucrative pour pouvoir permettre de fonder des espoirs pour leurs enfants. Et leur principale ambition était, je reprends leur expression avec guillemets, était que leur fille s'instruise. Pour eux, s'instruire, ça voulait dire accéder à un rang social. Et c'est dans cette logique-là que ses parents ont tenu absolument à ce que Léa suive des études, ce qui n'était pas toujours facilement le cas dans le monde agricole, où les enfants, parfois, on les envoyait plus volontiers aux travaux des champs que sur les bancs de l'école. Or là, ses parents ont eu cette approche et qui a été couronnée de succès, puisque Léa a satisfait les espoirs de ses parents.
Alors c'est en 1900 que Léa va épouser votre grand-père, Émile Mauny,
oui, voilà.
Je puis m'excuser. Alors parlons d'Émile Mauny justement.
Alors,
donc votre grand-père, le poilu.
Voilà, le fameux poilu. Alors Émile est né dans un petit village qui est à vol d'oiseau, à peut-être 4 kilomètres à peine, même pas 3 kilomètres de Bussy-en-Othe. Le hameau de Vorvigny, petit hameau de la commune d'Hénon. Et effectivement, à l'époque, les couples se faisaient souvent dans une grande proximité. On n'allait pas chercher une femme très loin. Et Émile, la famille d'Émile est très comparable à la famille de Léa. Petits agriculteurs. La seule différence, c'est que la maman d'Émile a été veuve très tôt. Donc elle a tenu sa petite exploitation toute seule. Mais elle a eu exactement la même attitude que les parents de Léa. À savoir qu'il fallait que ce fils réussisse, je reprends la même expression. Et dans ce sens-là, leur parcours est absolument parallèle. Les seules différences que je me plairais à souligner entre la personnalité de ces deux personnages principaux, c'est que leurs idées politiques, religieuses, philosophiques, etc. sont pratiquement les mêmes. La seule différence, c'est que Émile a une attitude beaucoup plus, je dirais, rigide, alors que Léa a un aspect plus ouvert à l'imaginaire, à la réflexion, à la fantaisie un petit peu. Elle est prête à pardonner beaucoup de choses à leur petit garçon qui n'est pas toujours bien sage, alors qu'Émile est beaucoup plus pointu. C'est le gros écart entre les deux époux.
Alors, votre grand-père, Émile Mauny, il fait partie de cette image des hussards noirs de la République, effectivement, dans cette rigueur, cette exigence morale et intellectuelle qu'il a aussi bien pour ses élèves que pour lui-même.
Bien sûr, bien sûr. Alors, effectivement, il est tout à fait dans cette mouvance de ce qu'on nomme les hussards noirs de la République. On est dans l'optique Jules Ferry. Troisième République. Et en fait, il faut apporter un bémol dans la mesure où la position d'Émile fait qu'il est parfois, même assez souvent, amené à prendre des positions à l'opposé de son propre camp. Et j'en donne pour exemple un discours de distribution des prix qu'il a fait en 1908 dans une de ses affectations précédentes dans la petite commune de Saint-Martin-sur-Aureuse, où lors de la distribution des prix, il était en charge de faire un discours et il avait pris pour thème la tolérance. Or, la tolérance, pardonnez-moi l'expression, ça n'est pas la tasse de thé des anticléricaux de l'époque. Or, Émile a développé ce thème de la tolérance de façon très très affirmée, et je dirais même qu'il a développé ce thème alors qu'il avait devant lui, bien sûr, non seulement ses élèves et les parents d'élèves de toute mouvance et de toute pensée, mais des élus du secteur, et en particulier le sénateur et maire de Sens, Lucien Cornet, qui lui se distinguait par un anticléricalisme farouche. Et Émile n'a pas craint d'aborder ce thème.
Homme courageux. Alors, il fait son service militaire en 1898.
Oui.
Il fait son service militaire à Sens. Il en sort avec le galon de caporal.
Oui.
En 1900, il épouse donc sa femme Léa. En 1905, il y a un premier enfant qui meurt de la tuberculose.
C'est
le petit, c'est déjà un Émile.
Oui, tout à fait.
C'est Mimi qui meurt à l'âge de 4 ans. Et en 1911, Léa et Émile se retrouvent durablement en poste à Courlon après avoir été des instituteurs stagiaires dans différents villages de Lyon.
Oui.
Et en 1906, il faut mentionner la naissance de votre papa.
Voilà.
Donc le petit Roger, dont il est question dans cette correspondance, petit garçon espiègle, qui va voir son papa mobilisé comme un grand nombre de soldats en France en 1914. Alors, les débuts de la guerre. En 1914, votre grand-père, et vu son âge, il a 37 ans, il est mobilisé au cinquième jour du début de la guerre, précisément le 5 août 1914, et il va être mobilisé dans un régiment d'infanterie territoriale situé à Sens.
À Sens, 33e régiment d'infanterie territoriale.
Donc une affectation plutôt paisible,
tout à fait.
Très à l'abri des combats et des premières lignes.
Absolument, et peu éloigné de son domicile, à tel point que le dimanche, les soldats reçoivent la visite de leurs épouses. Il leur demande d'apporter des victuailles. Enfin, ça se passe de façon très... Il n'y a aucun danger, il n'y a aucun péril. Il est conscient de la chance qu'il a.
Hein. Alors, il va quitter Sens pour ensuite se retrouver, j'allais dire cadre instructeur, à l'école militaire préparatoire d'infanterie, cette fois-ci à Rambouillet, dans les Yvelines.
Tout à fait. L'école de Rambouillet, bien sûr, avait vu ses cadres, qui étaient des militaires de carrière en temps de paix, partir sur le front. Donc il fallait remplacer ces gens-là, et l'armée avait pensé qu'il était judicieux de faire appel à des professionnels de la pédagogie et d'utiliser, pour remplacer les maîtres absents, d'utiliser des instituteurs et même des inspecteurs primaires mobilisés. Et de cette façon, Émile est devenu caporal instructeur dans cette école. Au début, il a tendance à penser qu'il allait faire le même métier. Et puis très vite, il s'aperçoit que c'est quelque chose de tout à fait différent, avec des enfants qu'on mène, on dirait aujourd'hui, à la dure, et par voie de conséquence, des enfants qui se comportent difficilement. Mais le pédagogue Émile Mauny dépasse tous ces problèmes-là et finit par très bien maîtriser la situation.
Mais il découvre, en tout cas, l'autorité militaire dans ce qu'elle a de plus laid, de plus peut-être parfois inhumain.
Oui. Et en particulier, il y a plusieurs passages dans ces récits où on pense à Courteline, où on leur fait faire des corvées, alors que ce sont des hommes d'âge mûr. Hein. À 37 ans, on n'a pas les réactions d'un appelé du contingent de 20 ans, bien sûr. Et alors ça lui pèse.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, ils vont reprendre les tranchées, là leur place est si utile que sans eux, on prend la pile. Mais c'est bien fini, ils en ont assez, personne ne va plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, ils disent adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, ils s'en vont là-haut, en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Corone, sur le plateau, qu'ils vont laisser leur peau, car ils sont tous condamnés, ce sont les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant ils ont l'espérance que ce soir viendra la relève, qu'ils attendent tous en rêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour les remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs viennent chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. c'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Caron, sur le plateau, qu'ils vont laisser leur peau. Car ils sont tous condamnés, ce sont les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur poids. Si pour nous la vie est rose, là-haut c'est pas la même chose. Au lieu de se planquer tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leur bien. Car nous n'avons rien, nous autres pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ce qu'on le pognon, cela reviendra, car c'est pour eux qu'ils crèvent. Mais c'est fini et les troufillons vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Vous écoutez Radion, c'est Wagon Livre, ce soir l'émission littéraire de votre radio locale. Notre invité à nos côtés, Michel Monnier, petit-fils de Poilu, qui a fait paraître un témoignage exceptionnel puisqu'il s'agit de la correspondance de ses grands-parents, correspondance échangée entre 1914 et 1919. Je rappelle d'ailleurs le titre de son livre, hein, Émile et Léa, lettre d'un couple d'instituteurs bourguignons dans la tourmente de la Grande Guerre. Alors Michel Monnier, on va rentrer cette fois-ci dans la guerre. Quel est l'état d'esprit, j'allais dire des civils, des gens de l'arrière? Je pense à Léa, qui reste seule dans le petit village de Courlon, où elle est, ne l'oublions pas, institutrice. Elle cumule aussi une autre casquette, à savoir qu'elle est secrétaire de mairie, elle assure le secrétariat de mairie, oui. Et puis elle est maman, elle doit gérer la scolarité de son fils qu'elle a en classe, qui est parfois problématique.
Tout à fait.
Alors, comment se passe la vie à l'arrière pour Léa au début du conflit qu'on pense être extrêmement court?
Alors, dans un premier temps, effectivement, on pense que le conflit va être court parce que l'évolution, en particulier un des thèmes qui amène cette pensée-là, c'est que l'évolution technologique, je dirais, des armements mis en œuvre, suppose un support économique important. Vrai pour l'Allemagne, vrai pour la France. De sorte que même les experts à plus haut niveau pensent que économiquement les nations ne pourront pas tenir longtemps. Donc ça ne sera obligatoirement qu'un conflit court. La population a la même approche, mais peut-être plus dans un esprit d'espoir, en se disant « Oh, voilà, on essaye de s'auto-convaincre que ça ne va pas durer ». Sous la plume d'Apolline, la maman d'Émile, on trouve souvent l'expression « une crise », non pas la guerre, mais une crise avec les Prussiens. Parce que elle est dans la mémoire collective de la guerre précédente de 1870, hein, cette crise avec les Prussiens. Voilà. Et alors, la crise, ben, finalement, dans un premier temps, tout cela éclate au moins en pleine moisson. À un moment, bien sûr, qui est critique dans un monde français majoritairement rural à l'époque. Comment va-t-on faire la moisson? Les hommes ne sont plus là, les chevaux sont réquisitionnés. Voilà, ben peut-être les hommes vont-ils revenir pour la vendange. Et puis la vendange approche et les hommes ne reviennent pas. Et on se berce toujours un petit peu encore d'illusions en disant, ben ma foi, ils sont là à Noël. Et à Noël, ils ne sont toujours pas là. Et alors cette guerre qu'on croyait être courte, ben finalement, elle s'enterre au sens propre et au sens figuré, puisque c'est à la guerre de mouvement des mois initiaux vont succéder la guerre des tranchées. Alors la vision à l'arrière, l'exemple de Léa est assez représentatif, je dirais d'une manière générale, avec ses originalités propres, mais est assez représentatif de l'exemple des femmes d'une manière générale. Dans ce conflit, les femmes ont été amenées, peut-être pour la première fois, à vraiment prendre un rôle majeur dans la mesure où elles ont été amenées vraiment à remplacer les hommes. Les effectifs masculins mobilisés ont été énormes. Au total, on a parlé de 8 millions de mobilisés. Ça veut dire que ça fait un trou énorme dans la population. Les femmes se trouvent seules et elles ne sont entourées que des vieillards ou des enfants. Ça les amène obligatoirement à prendre les rênes dans tous les domaines socio-professionnels. Alors, dans l'exemple de Léa, bien sûr, c'est dans le domaine de l'éducation nationale, où elle prend la classe de son mari. À l'époque, les classes étaient séparées. Une petite fille d'un côté, petit garçon de l'autre. Elle sollicite l'autorisation de son inspecteur primaire pour mêler les deux classes. Avec humour, d'ailleurs, dans une lettre, elle dit « Les gars sont bien contents ». Je pense que ça veut dire. et alors, non seulement elle a ce double rôle, mais elle supplée également à l'absence de son mari dans le rôle de secrétariat de mairie de la commune de Courlon-sur-Yonne, secrétariat où elle brille beaucoup moins, parce que là, c'est plus son métier. Et c'est des domaines qu'elle connaît moins. Elle est souvent amenée à poser des questions à Émile en lui disant, voilà, où est-ce que je facture, sur quelle ligne budgétaire dois-je prendre les frais de chauffage, etc. Et Émile lui répond, de façon très précise en lui disant, ben voilà, ouvre le tiroir en bas à droite, tu trouveras un dossier, etc. Mais enfin, il téléguide ça par correspondance interposée, ce qu'on ferait aujourd'hui par téléphone. Il le fait par écrit.
Le patriotisme est fort. Il y a une amie de Léa qui écrit que je voudrais être un homme pour aller défendre ma Bourgogne.
Tout à fait, oui. C'est une amie, c'est une collègue de Léa, Marie-Louise, qui a une position, on dirait aujourd'hui, très cocardière.
Alors, c'est vrai. Les préoccupations quotidiennes de Léa se ressentent dans les courriers. Et d'ailleurs, Émile donne ses instructions depuis le front et lui dit donc de gérer le foyer, de prendre bien sûr soin du jardin potager, de poursuivre l'élevage des pigeons. Mais enfin, au bout d'un moment, il lui dit les pigeons, mange-les. Mais
voilà.
Surtout, ne néglige pas le rucher parce qu'il craint une pénurie.
Absolument. Oui, et Émile est conscient des risques économiques que va entraîner le conflit, et il lui recommande effectivement de bien sauvegarder l'apiculture.
Votre papa, le petit Roger, qui a alors 8 ans au moment de la guerre, évidemment, il a un regard d'enfant prenant la guerre pour un jeu.
Oui.
Et je le cite, il écrit à son père, « Je voudrais que tu me rapportes un casque à pointe si tu le peux. » Ne fais-toi pas tuer. Bien sûr que vous avez conservé la syntaxe un peu fantaisiste de ce garçonnet qui, lui, veut que son papa lui ramène des trophées. Ça sera d'ailleurs l'occasion un peu plus tard, je crois.
C'est vrai. Et oui, il ajoute « défends-toi bien ». Oui, c'est vrai. Alors, il y a quelques trophées qui ont été apportés par Émile, c'est certain. Mais ce passage-là traduit bien la naïveté de cet enfant qui ne comprend pas bien ce que c'est que la guerre. À 8 ans, la guerre, c'est un sujet auquel on joue quand on est enfant, et évidemment, on ne peut pas s'étonner de cette naïveté.
La guerre de 14-18 à l'honneur sur l'antenne de Radion avec notre invité Michel Mauny, auteur de « Émile et Léa, lettres d'un couple d'instituteurs bourguignons dans la tourmente de la Grande Guerre ». Un témoignage exceptionnel sur cette terrible page de l'histoire de France à travers le courrier échangé entre Léa dans son village de Courlon près de Sens et son mari Émile au front. Alors, Michel Mauny, venons-en au front, puisque effectivement, on l'a dit dans un premier temps, votre grand-père donc se trouve dans la territoriale, il est dans un, on peut dire une affectation paisible.
Sans danger.
À Sens. Mmh. Un peu plus tard, bon, il est instructeur à Rambouillet, et puis arrive le moment où il va être versé avec le lot des combattants, et il se retrouve, bien sûr, à découvrir le front, les tranchées, la vie, l'image que l'on connaît, parce qu'effectivement les témoignages ont été nombreux sur cette vie dans les tranchées, la boue, les rats, le froid, les cadavres. Alors, justement, comment Léa garde-t-elle le moral? Est-ce que votre grand-père cache les choses à son épouse?
Alors, justement, c'est un des aspects qui m'a convaincu de passer à l'écriture, parce que l'intérêt des écrits d'Émile, c'est qu'il prend la décision vis-à-vis de sa femme de ne rien cacher. Souvent, les écrits de Poilu sont un petit peu adoucis parce que le soldat craignait d'inquiéter beaucoup sa famille. Et souvent, ces écrits-là donnent une image un petit peu auto-censurée. Alors que dans le cas d'Émile, c'est un homme qui veut jouer absolument la sincérité parce qu'il a peur de perdre sa crédibilité. Et il dit à Léa, je te dirai tout. Le bon, le mauvais, le dangereux, l'horrible, mais tu auras la totalité. Alors ça, c'est un aspect intéressant, parce qu'évidemment, on a une vision, je dirais, brute de décoffrage de la réalité de l'horreur de la guerre. Et cette convention, il la tiendra jusqu'au bout, hein, régulièrement.
Alors, il ne se plaint pas tellement du manque de nourriture.
Non.
Ça, c'est important pour un soldat d'être bien nourri, c'est un des réconforts.
Oui.
Avec l'alcool, avec le
tout
vin
à fait.
Ou la goutte.
Hein, alors, néanmoins, ce qu'il faut bien dire, ça je me plais à répéter ça à chaque fois que l'occasion m'en est donnée, c'est que ne généralisons pas. C'est le témoignage d'un homme, Émile Mauny. Mais ça ne veut pas dire que tous les témoignages de tous les poilus seraient identiques sur ce sujet-là. Il se trouve que dans son cas, effectivement, il y a des moments où la nourriture est moins bonne, mais pour lui, c'est pas un thème redondant. Il ne fait pas une critique de la nourriture. Et puis, c'est un homme rustique, habitué à la vie de la campagne, un peu rude. Il sait très bien ce que c'est que de supporter des privations, des choses comme ça. Donc ça, c'est pas son problème. En plus de ça, Léa s'investit énormément dans des envois de colis de nourriture, à tel point que parfois Émile est obligé de lui dire « ralentis un peu, j'en ai assez ». Donc il y a presque surabondance à ce niveau-là.
Elle le maternelle, on a l'impression justement.
Tout à fait.
C'est cette image un peu maternelle.
Absolument.
On nourrit, on envoie des vêtements chauds,
absolument.
L'hygiène, le confort.
Bon, exactement. Léa, c'est une épouse qui adore son mari. Et elle fait tout pour essayer d'atténuer son malheur. C'est ça sa démarche. Alors autrement sur la question de la boisson. Alors là, évidemment, on va arriver à quelque chose de peut-être un petit peu plus souriant. C'est que Émile accorde une très grande importance à la boisson du vin. Ça n'est pas un alcoolique, mais il est vrai que le vin était pratiquement considéré presque comme un aliment à l'époque. La nourriture de base, c'était le pain et le vin. Il y avait bien sûr d'autres aliments, mais la présence du pain et du vin, c'est fondamental. Et on pourrait presque, au travers de ses écrits, faire une étude de l'évolution du prix du litre de vin, parce que c'est son souci quasi permanent. Il évoque ça de façon très très répétitive. Ajoutant parfois d'ailleurs que les commerçants à l'arrière ont tendance à exploiter un petit peu le malheur des soldats en leur vendant le vin bien plus cher qu'il ne faudrait.
Mais l'alcool est distribué assez facilement aux soldats.
Oui.
Dans le but de les rendre un peu joyeux et leur donner un peu de courage.
Il le dit pas, ça. Il le dit pas.
J'ai l'impression qu'il en a conscience.
Là, vous pensez à ce qu'on a souvent entendu parler sur l'agnole. L'agnole pour rendre les soldats un petit peu plus courageux. Il l'évoque pratiquement pas, ça. Il parle surtout du vin, mais il parle pas de l'agnole. Alors, est-ce que c'est par autocensure? Ça, on peut pas l'affirmer. Je ne sais pas.
Thank you. Tu n'en reviendras pas, toi, qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Que nos buts a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part, ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri.
Alors concernant les conditions de vie, évidemment, lorsqu'on parle de la guerre de 14-18, Michel Mauny, c'est la guerre des chairs éclatées, c'est la grande boucherie. Mm-hmm. Et inévitablement, puisque Émile a fait le choix de tout raconter, de donner sa vision lucide et réaliste de la guerre à son épouse, évidemment, il parle des cadavres.
Bien sûr.
Il ne lui cache pas la réalité des corps
bien sûr.
Qu'on peut retrouver parfois par hasard en creusant une tranchée.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, évidemment, tout cet aspect horreur de la guerre, tout le monde dans la mémoire collective le connaît, parce qu'on a vu ça sous les plumes de nombreux auteurs. Mais tout ce que dit Émile le confirme. Il y a des choses qui sont assez épouvantables où effectivement il parle que il dit que le fait de creuser les tranchées parfois pose des problèmes parce que les hommes hésitent à donner les coups de pioche de peur de donner un coup de pioche dans un corps parce que il y a toute une partie en particulier devant Verdun où ils creusent non plus dans la terre mais dans des charniers. Alors, c'est assez horrible bien sûr. Il y a une description également des cadavres abandonnés dans ce qu'on appelait le no man's land, c'est-à-dire la partie comprise entre les tranchées adverses et les tranchées françaises, où là, ben, les hommes, ben, pourquoi est-ce qu'on ne va pas retirer les cadavres? Ben, tout simplement parce que c'est trop dangereux. Ça n'est possible de le faire qu'au moment d'une trêve éventuelle, si trêve il y a, de sorte que des hommes pourrissent pendant des mois, alors évidemment avec, vous me pardonnerez les détails assez horribles, mais avec présence de vers, en fait, tout un tas de choses extrêmement désagréables.
Et puis, il y a des découvertes, parfois, bon, sur un cadavre, sur un combattant, on a envie de récupérer certains effets militaires qui peuvent être utiles, une paire de bottes.
Oui, voilà, oui, parce que les chaussures, c'est très important. Et on a affaire à des fantassins, donc à des hommes à pied. Donc la chaussure, c'est quelque chose de primordial pour un fantassin. Or, parfois, les chaussures sont usées. Et souvent, il explique qu'il n'a plus de talons après ses chaussures, parce que les talons sont restés dans la boue. Et à un moment, il voudrait bien récupérer une paire de bottes. Et il dit, non, je ne peux pas la récupérer, il y a encore le pied dedans.
Comme beaucoup de poilus de 14-18, votre grand-père, Émile Mauny, va très rapidement banaliser la mort, banaliser le corps en putréfaction, le cadavre.
Tout à fait. Oui, mais ça c'est le problème de la, je dirais, comment dirais-je, de la multiplication de cette situation-là, qui fait qu'au bout d'un moment, on a l'impression que la sensibilité humaine finit par s'amoindrir. Et effectivement, à plusieurs reprises, ils expliquent que leur vie quotidienne se passe autour de monceaux de cadavres qui font partie de leur paysage habituel, et ils n'y accordent pratiquement plus d'importance.
Alors,
un mort de plus, un mort de moins, voilà.
Il y a tout de même, vraisemblablement, chez votre grand-père, un homme... avec une morale très solide, un homme très, très rigoureux, un homme aussi courageux qui, à mon avis, a échappé à la folie. Mais ce qui revient le plus souvent dans les lettres à son épouse, c'est le sentiment de vieillir, et de vieillir dans des conditions, d'un environnement de bombardement, de bruit, de furie, de fureur des hommes. Et ça, c'est ce qui, à mon avis, le désespère le plus.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'à plusieurs reprises, il émet le vœu. D'ailleurs, le mot victoire est très peu présent. C'est le mot qui est présent sous sa plume, c'est pas le mot victoire, c'est le mot paix. Ce qu'il souhaiterait, c'est pouvoir vivre, il le dit à plusieurs reprises, vivre ses vieux jours paisiblement avec son épouse, pour sortir de cette horreur guerrière.
Et il en sortira.
Et il en sortira.
Indemne, à part bon, le paludisme
sur
la fin de la guerre, voilà. C'est un moindre mal par rapport à ce qui aurait pu lui arriver.
Tout à fait.
Entre les gueules cassées, les mutilations.
Exactement.
Alors les gaz, parlons des gaz quand même, parce qu'il y a ceux aussi qui ont malheureusement survécu aux gaz et qui en ont souffert et qui en sont morts dans des conditions atroces. Alors les gaz, votre grand-père les a connus.
Oui.
Les a connus, et il écrit par exemple: nous avons des cagoules pour nous protéger des gaz, mais je n'en ai pas encore eu besoin. Protection bien dérisoire.
Oui, voilà. Oui, parce qu'évidemment c'était une surprise, l'introduction de cette arme-là. Et au début, l'armée française, comme les autres armées d'ailleurs, a eu du mal à répondre par une parade efficace rapide. De sorte qu'au début, c'est pratiquement limité à un mouchoir sur le nez, pas plus. Et dans ce cas-là, bien sûr, la protection est quasi illusoire. Mais la chance d'Émile, il a eu l'occasion de respirer des gaz, mais pendant assez peu de temps, ce qui veut dire qu'il n'a pas eu de séquelles graves. Mais il évoque le cas d'un de ses sous-officiers, un adjudant, je crois, qui, lui, a eu des séquelles importantes.
Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas et son barda contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir pour mourir un peu, à la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été, qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pas cadencé des hommes. Il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour, elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine, et puis voilà.
Toujours avec notre invité ce soir dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, Michel Mauny, pour son livre consacré à la correspondance de ses grands-parents, correspondance échangée entre 1914 et 1919. Michel Mauny, votre grand-père, sur le front, découvre des soldats sénégalais. Et j'aimerais que l'on parle, parce que j'imagine ce qu'a pu être pour un campagnard, un Iconais, la découverte tout d'un coup de Sénégalais au combat qui partageaient, tout comme lui, les mêmes souffrances, les mêmes horreurs, et puis sans doute étaient les acteurs d'une guerre dont on ne comprenait plus très bien les origines.
Oui, alors en ce qui concerne les troupes coloniales, Émile dit relativement peu de choses. Il y a trois lettres où il évoque ce thème-là. Mais même ces simples lettres-là sont quand même riches d'enseignements, parce qu'elles donnent une image des troupes coloniales qui est totalement décalée avec les stéréotypes qu'on en connaît habituellement. Dans la mémoire collective, on a un peu tendance rapidement à voir le tirailleur sénégalais comme un demi-sauvage. Le demi est peut-être même de trop, prêt à couper la tête de ses adversaires à coups de machette, alors que Émile donne une vision tout à fait différente, où il insiste surtout sur le fait qu'il voit chez ces hommes-là des gens qui sont complètement déracinés de leur pays d'origine, qui sont placés dans des conditions climatiques qui n'ont rien à voir avec celles à laquelle ils sont accoutumés, et qui lui paraît, selon ses propres termes, qui lui paraît pas bien méchant. Il y a une lettre du 16 juillet 1916, par exemple, quand il est dans le secteur de Verdun, où il dit ceci: « Nous avons ici des Sénégalais, de jeunes gens de 18 ans, noirs comme des taupes et très friands de croûte de pain. Ils sont campés dans une enceinte de fil de fer, mais ils viennent volonté causer par geste avec nous. Pauvres petits déracinés qui ne paraissent pas bien méchants. » On est très loin de la vision habituelle qu'on a de ce genre de conflit, de ce genre de personnes.
Alors, ces petits Sénégalais lui rappelaient peut-être la pureté et la naïveté de son fils, Roger. Donc Roger, rappelons-le aux auditeurs, c'est votre papa,
oui.
Émile Mauny. Et alors, ce qui est omniprésent dans la correspondance d'Émile Mauny à son épouse Léa, c'est le fait de ne pas être physiquement présent aux côtés de Léa pour assurer l'éducation du jeune Roger. D'autant plus que c'est un enfant espiègle, c'est un enfant qui scolairement semble éprouver des difficultés, ou en tout cas être un peu paresseux. Alors, ce qui est extraordinaire, et nous en avons déjà parlé ensemble, Michel Mauny, c'est que votre grand-père, dans les tranchées, alors que ça bombarde à droite, à gauche, trouve le moyen de s'insurger des fautes d'orthographe de son fils ou de ses anciens élèves, qui très gentiment ont la gentillesse de le prévenir qu'il prépare le certificat d'études.
Oui.
Et il dit à sa femme, fais-leur quand même quelques petits exercices sur tel verbe ou tel groupe de verbes, parce qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est quand même incroyable, ces hommes qui ont les pieds dans la boue.
Mais je crois qu'il y a une explication à ça. Effectivement, Émile, bien sûr, est militaire, là, mais en fait, c'est pas un militaire de métier. C'est un citoyen mobilisé. Donc c'est avant tout un instituteur en uniforme, mais un instituteur. Et la référence au métier civil, vrai pour Émile avec son métier d'instituteur, mais vrai pour tous les hommes mobilisés, la référence au métier civil est dans une certaine mesure une forme d'évasion mentale. Parce que lorsque Émile raisonne en instituteur, dans son esprit, dans sa tête, il n'est plus dans la tranchée. Ça y est, il est évadé. Intellectuellement. Et effectivement, il y a des passages qui sont assez démonstratifs de cet aspect-là. Et en particulier, il est très soucieux, il souffre de ne pas être présent pour encadrer sérieusement l'éducation de son fils Roger.
Et notamment lorsque Roger va intégrer le lycée de France.
Voilà.
Alors là, mon Dieu, il donne des conseils précis.
Très fermes. Voilà, lorsque tu parleras à tes professeurs, n'oublie pas de retirer ta casquette. Mais des conseils vraiment très très autoritaires.
Et auprès de son épouse, il lui dit pense à acheter des faux cols blancs.
Absolument,
pour Roger.
Voilà.
Il doit être bien habillé.
Et alors le petit Roger, on va revenir un instant sur lui parce qu'on en a peu parlé quand même.
C'est votre papa.
C'est mon papa.
Oui, d'ailleurs, aux auditeurs, c'est important.
C'est toujours drôle de dire le petit Roger parce qu'il s'agit de mon père. Et alors, ce petit Roger, eh bien, ma foi, comme beaucoup d'enfants d'enseignants, les parents voudraient bien que leur petit garçon soit sinon un élève modèle, soit au moins quelqu'un qui ne fasse pas rougir la dynastie de la famille des enseignants. Or, le petit Roger n'est pas paresseux, hein. Il n'est pas paresseux, il n'est pas, sot.
Il a l'esprit en vacances
parce qu'il a une mentalité d'artiste. Lui, son affaire, c'est la musique. et c'est un rêveur. Alors il est toujours en train de rêver à sa musique, et Dieu merci, ses parents ont compris que ce gosse, eh bien ma foi, il n'était pas fait pour les études, et bah, grâce à eux, merci, le petit Roger est devenu violoniste professionnel et chef d'orchestre.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Michel Mauny, le temps passe vite. Mmh. Votre grand-père a fait tout de même, sur l'ensemble des lettres qu'il a écrites à Léa, il n'a fait que deux fautes d'orthographe.
Oui. Mmh.
Notamment une qui est restée célèbre, c'est déclencher, le verbe déclencher.
Oui.
Je ne sais plus si ça s'écrit, c'est le an de déclencher. La voyelle nasale s'écrit avec un A ou avec un E.
Oui, c'est ça. Oui, oui, il fait cette réflexion. Oui, à un moment où il est vraiment engagé en combat. Hein.
Est-ce que vous avez constaté, alors vous l'avez dit tout à l'heure dans l'entretien, l'amour de ce couple, l'amour qui est resté fort en dépit de la séparation physique liée bien sûr à la guerre, il y a peu de manifestations sentimentales, en tout cas pas excessives de la part de votre papa, mais il a, notamment pour la fête de Léa, dans sa lettre du 11 mai 1916, il y ajoute quelque chose, et là je voudrais que vous l'expliquiez aux auditeurs de Radion.
Là je vous cache pas que c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému quand j'ai exploité ce gisement de courrier. Aux approches de l'anniversaire de Léa, Émile est devant Craonne à ce moment-là, sur la rive droite de l'Aisne, Et il écrit à son épouse, ben voilà, je voudrais bien t'envoyer une petite fleur pour célébrer ton anniversaire. Et devant moi, sous-entendu devant sa tranchée, beaucoup de muguet pousse. Mais, il y a un mais les obus tombent drus dessus. Voilà. Et alors, à cette première lecture, moi je concluais en disant, ben ma foi, cette pauvre Léa, elle aurait eu la simple consolation de dire, ben mon petit mari chéri, il a pensé à moi. Et puis voilà, c'est tout. Et dans la lettre suivante, pliée soigneusement dedans, j'ai trouvé le petit brin de muguet. C'est-à-dire qu'au péril de sa vie, Émile a été chercher le brin de muguet pour son épouse. Et ça, je trouve ça extrêmement fort. Et je trouve que c'est, dans une certaine mesure, une manière de se consoler un petit peu parmi ce monde d'horreur, de s'apercevoir que même dans les conditions les plus dramatiques, heureusement, chez l'homme, il reste un petit peu d'humain.
Et ce qui est formidable, c'est aussi la conscience du temps qui passe, puisqu'il pensera à leur anniversaire de mariage, le 1er septembre 1916, puisque j'ai dit au début de notre entretien qu'ils étaient mariés en 1900, date hautement symbolique, et il lui écrit « Il y a aujourd'hui 16 ans que nous sommes mariés, nous étions à ce moment tout à la joie. Que de choses se sont passées depuis, que de travail nous avons fait ensemble. » Et il reste confiant dans la tenue de ce couple, dans la fidélité, parce que il y a aussi des échos, justement, venant de l'arrière, et on va sans doute terminer l'émission sur ça. Forcément, on ne peut qu'encourager les auditeurs à aller lire ce témoignage exceptionnel. À la radio, nous ne pouvons n'en rendre compte que quelques aspects, bien évidemment. Sûr. Mais il faut parler de la haine de Émile Mauny pour les journalistes, les embusqués de l'arrière.
Absolument.
On sent vraiment qu'il y a une tranchée, un fossé entre le monde combattant et le monde civil, les embusqués, et ceux qui, finalement, pétrissent un peu l'opinion générale par la désinformation. Et alors là, Léa reçoit aussi des consignes extrêmement sévères de la part de son mari.
Oui. Alors il y a un décalage profond qui est souligné par les attaques redondantes et très nombreuses d'Émile qui critiquent ce qu'on a appelé après le bourrage de crâne, c'est-à-dire la désinformation, en particulier au travers de la presse, puisque les médias n'étaient pas très nombreux à l'époque, c'était essentiellement la presse. D'ailleurs, j'ai découvert ainsi qu'il était abonné à plusieurs journaux qu'il recevait sur le front. Le courrier marchait bien. Et la lecture des journaux, c'est un sujet de révolte chez lui, parce que la présentation qui est faite est vraiment très éloignée, pour ne pas dire complètement opposée à ce que les poilus vivent eux réellement. Et alors il s'emporte très fréquemment contre les journalistes et également contre les responsables politiques et contre les parlementaires.
Les messieurs des 15 000.
Voilà. Alors, c'est une expression que je ne connaissais pas. C'est justement un de mes amis historiens qui m'a éclairé là-dessus. Messieurs les 15 000, c'est le nom qu'on disait de façon un petit peu amusante des députés, parce que c'était leur salaire annuel. Messieurs les 15 000.
Alors, effectivement, il écrit « Mon seul plaisir actuellement serait de pouvoir flanquer mon pied quelque part à un des nombreux imbéciles de l'arrière, surtout si c'était un journaliste.
Oui. »
Et alors, effectivement, il y a des défenses terribles. Aléa, ne lis plus les journaux car tu perds complètement la tête, parce qu'elle aussi lui rend compte de ce qu'elle a pu lire. Et effectivement, Émile est scandalisé. Et il écrit « Moins de gala en l'honneur des blessés » et beaucoup plus de courage. Michel Mauny, on va devoir en rester là. Je vous remercie d'avoir évoqué pour l'émission littéraire de Radion la correspondance donc de Léa et d'Émile, vos grands-parents. Émile et Léa, c'est le titre de votre livre, sous-titré « Lettres d'un couple d'instituteurs bourguignons dans la tourmente de la Grande Guerre », préfacé donc par Michel Cordillo, qui est professeur à l'Université de Paris 8, et par un professeur agrégé au lycée de Joigny, Franck Thomas. Si vous désirez vous procurer ce merveilleux témoignage, eh bien vous vous adressez auprès de vos libraires habituels ou des maisons de la presse, et si vos commerçants habituels ne disposaient pas de ce livre, eh bien vous vous renseignez auprès de Radion, ou vous m'envoyez un mail à yannick.petit@radion.fr, ou vous téléphonez à la station. On saura vous donner les coordonnées de Michel Mauny pour vous procurer ce livre. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à partir de 21h, puisque dans Wagon Livre, la bande dessinée sera à l'honneur. En effet, nous rencontrerons
Chris Flamand, scénariste et dessinateur, auteur de l'album « Vacances à Saint-Prix » aux éditions Aquileos, transposition graphique de l'enfance du dessinateur et de ses vacances estivales passées dans un lieu dit perdu en plein Morvan. Rencontre donc avec Chris Flamand, mercredi prochain dans Wagon Livre, toujours sur Radion. En attendant ce rendez-vous, excellente fin de soirée à toutes et à tous, bonne nuit, merci de votre fidélité, au revoir à toutes et à tous, à bientôt.